suis à la direction générale de l'offre de soins. Cette direction est subdivisée en bureaux et le bureau que je représente est celui qui s'occupe de la démographie des professionnels de santé, vous bientôt, et des formations initiales. Donc c'est le bureau qui élabore les normes qui permettent à la fois l'exercice d'une profession de santé et les programmes de formation. À ce titre, nous avons nous aussi une réflexion prospective sur l'évolution des métiers afin d'en déduire les évolutions en matière de formation. Et ce qui fait évoluer un métier, du moins parmi les facteurs qui font évoluer un métier, il y en a un qu'on retrouve à peu près systématiquement ces dernières années, c'est celui de la population générale, la population à qui nous devons une prise en charge de qualité. Alors, ce qui caractérise, diapo s'il vous plaît, ce qui caractérise l'évolution de la démographie de la population en général, pas seulement celle des professionnels, j'y viendrai après, c'est d'abord une augmentation de la population âgée. Alors, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte. Je qualifierai cela un tout petit peu après, pour vous montrer en quoi ça va vous concerner, et l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, pour résumer, il y aura de plus en plus de personnes âgées et qui resteront âgées plus longtemps. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je le dis surtout pour ceux qui s'en rapprochent, comme moi. Ce qui va avec... C'est pas évident au départ. On peut considérer que vivre plus vieux est une fatalité ou s'impose à nous, c'est Dieu qui l'a voulu ou les circonstances, mais qu'on n'est pas maître de cela. D'une certaine manière, oui. On est quand même maître de la manière dont on entend vieillir. Or, la volonté de la population, c'est de rester en bonne santé plus longtemps. Elle ne veut pas seulement survivre, mais elle voudrait bien profiter de la vie et avoir des années de bonne vie plus nombreuses. C'est quelque chose dont vous avez entendu parler à l'occasion du débat sur les retraites. Mais ce qui va en parallèle avec cet accroissement de la durée de la vie de nos concitoyens, c'est que malheureusement, même si on veut vivre en bonne santé, pour le coup, la nature est injuste, et il y a des maladies, des blessures, tout un tas de choses qui font qu'on est malade. Et ce qui caractérise le grand âge, c'est qu'il subit des polypathologies. Je reviendrai dessus tout de suite après, quand je parlerai de la démographie dans les services de santé. Donc, développement de polypathologies et développement de pathologies chroniques. Alors, ce sont parfois les mêmes, elles peuvent être différentes. On peut être insuffisant rénal chronique et, en plus, développer de l'hypertension artérielle, avoir une crise d'appendicite ou se casser le col du fémur. Et c'est avec tout ça que l'on doit vivre et que l'on doit être soigné. Enfin, c'est relativement récent, relativement en termes de prise en compte dans les politiques publiques, c'est le problème de la problématique de la dépendance. Si pour vivre plus longtemps, il va falloir être soigné, mais il va falloir aussi être accompagné. Il va falloir prendre soin. Et le prendre soin, ce n'est pas seulement à l'hôpital, c'est aussi dans tous les actes de la vie courante. Diapo, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne les professionnels de santé et leurs pratiques, le besoin de santé de la population, que j'ai cité tout à l'heure, se traduit par une chronicisation, donc ce qui veut dire que les maladies durent et qu'elles doivent être traitées plus souvent et plus longtemps dans des milieux adaptés, comme l'hôpital ou des maisons de retraite adaptées. Une complexification des pathologies. J'ai pris un exemple très simple tout à l'heure, mais il y en a des beaucoup plus complexes. Avoir des personnes qui sont victimes à la fois d'une insuffisance rénale chronique, d'une hypertension artérielle et qui se cassent le col du fémur. D'ailleurs, c'est pas, sans être banal, c'est pas non plus d'une rareté très forte. On trouve bien pire dans les services de gériatrie et les maisons de retraite qui les accueillent ensuite. Une fragilisation avec une dépendance médico-sociale. Alors, une fragilisation qui vient de ce que notre société ayant ainsi évolué, la personne âgée ne vieillit pas forcément dans un environnement qui exerce une surveillance constante. sa famille, comme c'était le cas avant. Elle vieillit seule. Les risques de chômage sont plus importants qu'avant, donc les risques de précarité sont plus importants qu'avant. Ceci est un facteur de complexité supplémentaire et d'aggravation de l'état de santé de nos concitoyens. La demande de, donc cette demande-là, elle se reporte sur les professionnels de santé ensuite. La demande de santé de la population, c'est donc rester en bonne santé le plus longtemps possible, c'est presque un slogan. Ce qui veut dire qu'en matière de proposition par les professionnels, on va leur proposer des thérapeutiques, mais aussi de faire de la prévention. On va les éduquer. On peut vivre longtemps avec son insuffisance rénale chronique, mais pas simplement en ayant changé un organe ou en prenant des médicaments. Et on va les informer sur leur maladie. Diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne la profession elle-même, son évolution, elle est elle aussi démographique. Alors pour ça, je vous demandais de passer tout de suite la diapo suivante, qui doit être un graphique. Voilà. Sur ce graphique, vous pouvez nous avons mis en évidence à la fois le nombre et la densité des infirmiers qui étaient en activité, moins de 65 ans, en activité. Ils sont enregistrés sur un fichier national qui s'appelle ADELI. Et ce que montre ce graphique de manière évidente, c'est que si le nombre s'accroît, la densité aussi. C'est-à-dire que le nombre d'infirmiers qui sont à la disposition de nos concitoyens, alors que ce soit en libéral ou en établissement de santé, est de plus en plus important. Alors, au silence qui se fait, je devine que ça peut choquer. Ce n'est pas la perception que nous renvoient alors, soit les médias, mais nos comments sur le travail des médias. C'est une manière de prendre une information et de la mettre en lumière. Ça heurte aussi ce que nous pouvons voir dans notre environnement quotidien. Il n'empêche que la réalité du nombre, elle est celle-là. Ce que cachent ces nombres, et je ne vous l'ai pas mis parce que je ne voulais pas surcharger la présentation, c'est qu'il y a d'énormes disparités entre les régions et à l'intérieur d'une même région, entre les villes et les campagnes, et à l'intérieur des zones agglomérées, et en région parisienne, on est bien placé pour le voir, entre certains quartiers et d'autres périphériques. Il y a des taux en infirmiers en Île-de-France qui sont déjà, de manière générale, plus faibles que dans beaucoup d'autres régions, puisque l'Île-de-France vient dans les dernières régions en termes de densité. Mais à l'intérieur de la région Île-de-France, il y a des zones où c'est pire que la Creuse, par exemple. On pourrait s'imaginer que la Creuse est le modèle de région défavorisée. Si vous voulez bien revenir à la diapo précédente. Merci. Merci. Un autre facteur d'évolution des professions de santé, ce sont les progrès scientifiques et techniques. On n'exerce plus les soins, c'est-à-dire la médecine, mais aussi les soins infirmiers, tous les soins d'ailleurs, de la même manière qu'avant. Beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de médicaments, beaucoup plus de possibilités de soigner. Tout ça, bien sûr, influe sur l'exercice du métier. Et puis, conséquence, mais aussi à côté, il y a la volonté d'optimiser l'offre de soins. Alors l'optimiser, ça veut dire mettre le maximum de bons soins au bon endroit. Ça veut dire aussi faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Mais aussi une complexification des actes. Beaucoup plus de corps de métier soignants interviennent, soit au même moment, soit successivement. Et de ce fait, on peut parler d'un parcours de soins pour un patient. Diapo après le graphique, s'il vous plaît. Voilà. Alors, cette évolution de l'offre de soins, elle va requérir des compétences différentes. Premièrement, s'il y a bien une évolution favorable de la démographie des soignants, on entend par soignants les paramédicaux, la démographie est beaucoup moins favorable, elle est même très défavorable en ce moment, en ce qui concerne les personnels médicaux. On manque de médecins et on arrive, disons, à trouver des paramédicaux. Alors, une idée simple, c'est de dire peut-être que dans ce que font les médecins, il y a des choses qui pourraient être faites par d'autres, les paramédicaux. Ça se passe dans d'autres pays, hein, c'est pas bouleversant ce que je dis, ça se pratique ailleurs. C'est ce qu'on appelle la coopération, et dans la coopération, les pratiques avancées. Mais la coopération, elle passe aussi par des communications interprofessionnelles. On se parle entre soignants. En tout cas, il y a la nécessité de se parler plus Le dossier de soins dans un hôpital est une mine d'informations, mais il reste à l'hôpital. Or, le patient ne va pas faire toute sa vie à l'hôpital. Il va sortir, on l'espère quand même, puisqu'il va, il va vieillir chez lui dans de très très grandes proportions. Coopération, c'est aussi l'émergence de nouveaux métiers. Avant, on parlait d'aide-soignants, d'infirmières, et puis on avait fait le tour du personnel qu'on pouvait trouver à l'hôpital. À côté, il y avait les sages-femmes, et puis progressivement, masseur-kiné, ergothérapeute, psychothérapeute, psychomotricien. Il y a une bonne vingtaine de métiers qui gravitent dans le soin. Et ces métiers évoluent au point que parfois, il y a une cassure qui se fait, et on peut dire qu'un métier disparaît au profit d'un nouveau. Ou même qu'un ancien métier se scinde en deux ou trois nouveaux. L'aide-soignant, par exemple, eh bien, l'aide-soignant, on peut considérer maintenant qu'il n'exerce pas tout à fait, et bientôt ce ne sera plus du tout, le même métier, selon qu'il est aide-soignant dans un service de médecine, ou qu'il est aide-soignant dans une maison de retraite, ou qu'il est aide-soignant, même on pourrait imaginer, ça ne se fait pas encore, mais il y a quand même des activités paramédicales en libéral qui sont très proches, à travers le nursing, on appelle, de ce que fait un aide-soignant, mais ce serait en libéral. Deuxième facteur qui va modifier les compétences requises, c'est que tout doucement, ce qui était dans le champ du sanitaire passe dans le champ du médico-social. Avant, les choses étaient simples. Soit on était malade, soit on était vieux. Mais il n'y avait pas les deux. Soit on était handicapé, mais on ne pouvait pas être l'un et l'autre. La vie est un peu plus complexe que cela, et on vieillit avec son handicap, on vieillit avec ses maladies. Donc il faut des structures médico-sociales. L'évolution se fait donc du sanitaire vers le médico-social et elle conduit à des propositions de coopération des institutions sanitaires et médico-sociales. La loi HPST, Hôpital, Patients, Santé et Territoire, votée à l'été 2009, permet, et dans certains cas incite très fortement, à la constitution de communautés hospitalières de territoire qui sont chargés de proposer l'ensemble des services qui sont requis pour qu'on ait une bonne prise en charge de la population. Et la constitution de réseaux aussi. Je conclurai sur cela. Sur les compétences requises par les professionnels de soins, il y aura trois domaines essentiellement qui vont être impactés. Celui de la démarche diagnostique, là où avant le professionnel de santé paramédical était essentiellement quelqu'un qui agissait dans un domaine prescrit, il faisait ce que le médecin lui prescrivait. Il est à présent dans une démarche diagnostique, à lui d'analyser une situation et de faire une proposition et de mettre en œuvre une prise en charge. Deuxième domaine, une démarche de résolution de problèmes, en effet, face à une situation qui évolue, qui peut même être nouvelle pour lui, il doit être doté de ce qu'il faut savoir pour faire face à cette situation nouvelle, l'analyser et lui apporter une réponse. Enfin, la qualité et la sécurité des soins, ce n'est pas qu'avant on ne s'en souciait pas, mais on n'avait pas les modèles qui nous permettent d'homologuer, certifier, valider des actes de bonne qualité. À présent, on les a, ces modèles, ces outils, et il faut que la démarche de soins, les actes réalisés, s'inscrivent dans des procédures qui sont très réglementées pour certaines en matière d'hémovigilance, d'hygiène, de pharmacovigilance. Il y a beaucoup de vigilance en matière de santé. Voilà, j'en ai fini pour ce qui est de l'évolution professionnelle.